13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est de l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et l'actualité cette semaine, c'est la folie Toutankhamon qui s'empare de Paris. Martin Fonneau va nous raconter le luxe de précaution qui a entouré l'arrivée des trésors de la tombe du jeune pharaon. Toutes les portes de la grande halle de la Villette ont été entièrement changées. Et avec Diane Chenouda, nous plongerons au cœur de l'exposition qui pèse près d'1 milliard d'euros. Les forces de l'ordre, on l'entendait dans le journal en première ligne une fois encore pour ce 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Avec Salomé Legrand, nous verrons que la justice est aussi sur le pont depuis 4 mois. Au lendemain de chaque manifestation. Dans Tout Terrain, un témoignage exceptionnel. Florent, 38 ans, un jeune schizophrène qui a rencontré Mélanie Gomez. Il veut montrer qu'on peut vivre normalement avec cette maladie. Un triste record sur la côte atlantique. Plus de 1100 carcasses de dauphins retrouvées échouées depuis le début 2019. Justin Morin a rencontré les pêcheurs mis en accusation. Et puis on terminera Tout Terrain en musique. Thierry Geffrotin nous emmènera dans les coulisses de la comédie musicale Guys and Dolls pour la première fois montée à Paris. Voilà pour le programme. Tout Terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
Et pour commencer Tout Terrain, on va donc parler de l'exposition qui fait l'événement à Paris depuis ce matin. Je veux bien sûr parler de l'exposition Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette à Paris. Vous avez pu l'entendre dans le journal, l'enthousiasme des premiers visiteurs qui découvrent ces 150 objets sortis de la tombe du jeune pharaon, des objets sous très haute sécurité évalués à près d'1 milliard d'euros. On comprend mieux pourquoi il y a eu un luxe de précaution pour acheminer ces pièces inestimables à Paris. Bonjour Martin Fenot.
Bonjour Fabienne.
C'est vous Martin qui nous avez raconté cette semaine sur Europe 1 comment ces trésors sont arrivés à Paris. Déjà, ils arrivaient d'où ?
Alors, ces objets, ils arrivaient d'Égypte évidemment, mais ils n'ont pas fait un vol direct Le Caire-Paris puisque le trésor en fait va être exposé dans plusieurs pays. C'est une tournée mondiale, d'abord Los Angeles, puis la capitale française, ensuite Londres. 10 grandes villes en fait au total. Donc pour répondre précisément à votre question Fabienne, les objets arrivaient de Los Angeles.
Et ils ont voyagé comment ?
Alors, ces objets, ils ont voyagé dans des conditions dignes du voyage d'un chef d'État, on peut dire, en termes de sécurité, avec en plus des précautions extrêmes pour éviter qu'il y ait de la casse, hein, pour dire simplement les choses. C'est l'entreprise FedEx qui s'est chargée du transport. Ils sont spécialisés dans ce type d'opérations sensibles. Et j'ai pu en discuter avec Mathilde Goffard, la vice-présidente des opérations terrestres. C'est elle qui a organisé le voyage du trésor. Écoutez.
C'est un transport qui est vraiment exceptionnel, déjà de par la nature de ce que l'on transporte. Donc c'est 150 objets, dont bon nombre ont plus de 3300 ans. Donc on transporte ces 150 objets dans 20 caisses qui ont été faites sur mesure pour les objets. Et pour assurer le transport, donc on va affréter l'un de nos avions, qui est l'un des plus gros avions de notre flotte. Cet avion est équipé d'un système de contrôle de la température qui se situe entre 20 et 22 degrés.
Pourquoi ?
C'est des marchandises qui ont besoin d'avoir ce transport dans cette température qui doit être contrôlée.
Donc la température est sous contrôle, l'humidité aussi, des caisses sur mesure. Il y a un conservateur égyptien qui a passé tout le voyage à côté du trésor. Et à l'atterrissage de l'avion, on ne sait pas dans quel aéroport ni à quelle date, c'est top secret, mais à l'atterrissage, donc le trésor a été chargé dans les remorques de plusieurs camions, des puces GPS pour les localiser en temps réel durant tout le trajet jusqu'à leur arrivée à la Villette.
Une fois arrivé sur place, à la grande halle de la Villette, ce qui a dû être terrible pour le responsable de l'exposition, c'est qu'il n'a pas pu vérifier tout de suite si tout était intact.
C'est ça exactement, parce qu'il faut attendre 48 heures avant d'ouvrir les caisses, le temps que les objets s'acclimatent à la température, à l'humidité ambiante. J'en ai parlé justement avec le conseiller scientifique de l'exposition, Dominique Farou, et pour lui, ce voyage, cette attente, ça a été vraiment une torture, je vous propose de l'écouter.
Non mais vous vous rendez compte, on a des gants en lin brodés qui ont 3300 ans. J'arrive même pas à imaginer qu'on puisse transporter ça. Ce sont des objets incroyables quoi. Il y a des tissus de lin qui, lors de la fouille en 1922, sont tombés en poussière presque instantanément quand même.
C'est ça le risque, c'est que ça tombe en poussière comme ça ?
Alors non, là, ceux-là, ils ont été quand même restaurés. Mais même si ce sont des objets qui ont été consolidés, confortés, etc., ce sont quand même des objets qui, à la moindre erreur, risquent d'être détruits quand même. Il y a un objet qui est assez extraordinaire dans le genre, c'est la boîte à arc de Toutankhamon, qui est en bois, en cuir, plaqué de feuilles d'or. Les extrémités sont en faïence égyptienne. C'est un mélange véreux, C'est-à-dire, vous comprenez, vous avez quelque chose qui est dans tous ces matériaux, dont du verre, en fait. Au moindre choc, à la moindre erreur au niveau de l'humidité ou autre, on risque de les abîmer. Je ne veux même pas y penser. Ouais. C'est un miracle, quoi, d'avoir des objets comme ça qui sont parvenus jusqu'à nous. On a l'impression de serrer la main de gens qui sont morts depuis des millénaires.
Voilà, il me disait d'ailleurs, cet égyptologue passionné, que lui, il aurait jamais osé en fait prendre le risque de déplacer ce trésor, tellement sa valeur est inestimable pour tout le monde, mais pour lui en particulier, qui connaît parfaitement l'histoire de ces objets.
Et on imagine que depuis leur arrivée, ces objets sont sous bonne garde. Vous avez pu en savoir un peu plus sur le dispositif de sécurité ?
Alors non, il y a très très peu d'éléments qui filtrent, hein. Tout est gardé secret. Il y a une raison très simple en fait, le trésor, vous l'avez dit, a été estimé par des sociétés d'assurance, parce qu'il doit être assuré, et ces sociétés sont mises d'accord sur un montant.
On l'a dit, un milliard.
Modeste, hein. Un milliard de dollars, c'est affolant. Et tant que le trésor est en France, l'État français se porte garant des œuvres, donc sécurité maximale, secret défense. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la grande halle de la Villette a dû changer quasiment toutes ses portes, plus d'une centaine, pour des modèles en acier trempé.
Alors, la dernière fois qu'une telle exposition a eu lieu à Paris, c'était en 1967. Là aussi, il y avait eu un luxe de précaution pour la sortie du Caire de ces objets, navires militaires, avions, escouades de policiers en civil et motards pour acheminer en pleine nuit ce précieux trésor jusqu'au Petit Palais. Et en plus, à l'époque, il y avait le fameux masque d'or qui n'est pas là aujourd'hui. Mais pourquoi courir un tel risque de faire sortir ces objets d'Égypte ? Il y en a une cinquantaine, je crois, cette fois, qui n'étaient jamais sortis du pays.
Exactement, et on peut effectivement se poser la question. Hein. Et je vous propose d'écouter tout simplement la réponse de Vincent Rondeau, c'est le directeur du département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre.
Nous éprouvons un plaisir intense à avoir devant nous l'objet lui-même. Et c'est ça qui nous fait prendre ces risques, alors qu'ils sont évidemment très maîtrisés, et qui démontre également, si vous voulez, qu'il s'agit bien finalement d'un patrimoine commun. On a tous connu un moment, une rencontre avec l'Égypte ancienne, grâce à quelqu'un, grâce à une exposition ou que sais-je, un livre, et tout le monde a le masque d'or de Toutankhamon dans la mémoire rétinienne, hein. On l'a tous vu d'une manière ou d'une autre. Eh bien, tout ça, ça signifie que nous sommes familiers de ce trésor.
Sauf que là, Martin, le masque d'or, on le rappelle, il ne sera pas là.
Non, effectivement, il ne sera pas là. Et puis, je voulais ajouter aussi ce que disait une citation de cet égyptologue à la toute fin de l'interview. Il a bien expliqué la chose. Il disait que le meilleur moyen d'en faire un patrimoine commun de ce trésor, c'est justement de le faire voyager.
Merci beaucoup, Martin Fenot. Et je vois que la malédiction de Toutankhamon ne vous a pas fait peur pour ce reportage.
Oui, effectivement, il paraît qu'il y a une malédiction.
Voilà, oui, dans les années 20 d'une série de morts mystérieuses de tous ceux qui auraient touché les trésors de Toutankhamon après la découverte en 1922 de la tombe. Une dernière question,
moi,
vous avez pu voir ces objets ?
Moi je vais bien, mais je n'ai pas encore, eu la chance de voir les objets, donc c'est peut-être pour ça.
Eh bien, Diane Chenouda du service culture d'Europe 1, elle a eu cette chance de parcourir en avant-première l'exposition cette semaine. Elle nous raconte tout dans un instant.
Fabienne Lemoelle sur Europe 1.
h10, l'émission des reporters d'Europe 1, c'est tout terrain comme chaque samedi sur Europe 1 avec Fabienne Lemoelle.
Retour dans tout terrain pour vous faire découvrir les merveilles de l'exposition qui fait donc l'événement à Paris depuis aujourd'hui à la grande halle de la Villette, l'exposition Toutankhamon. Bonjour Diane Chenouda.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Alors Diane, vous avez eu la chance de voir en avant-première cette exposition cette semaine. Vous nous en aviez déjà parlé en novembre quand la billetterie avait été ouverte. Vos premières impressions, Diane?
Écoutez Fabienne, c'est tout simple, c'est le vertige des merveilles. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba, hein. On est émerveillé par chaque objet. Mobilier, coffre, sculpture, statue, sarcophage, à l'effigie Toutankhamon, barque solaire, funéraire, bouclier, bijoux en or. Serti de pierres précieuses, tout ce rituel qui accompagnait le mort dans l'Égypte antique, qui nous est ici raconté avec textes, photos, vidéos à l'appui. On est là devant le mystère de ce roi mort si jeune, de ces trésors qui ont traversé le temps. Et vraiment, ce qui frappe, eh bien, c'est que ces objets sont admirablement conservés. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est parce que le sol, dans le désert, là où a été retrouvé ce trésor, eh bien, il est très sec et ça, on est stupéfait vraiment devant cette conservation.
Et on comprend mieux le luxe de précaution pour transporter ces objets, comme nous l'a expliqué à l'instant Martin Fenot, avec ce souci justement de l'humidité, de la conservation des objets. Vous êtes tombé sous le charme, j'ai bien compris.
Bah oui, non, mais là, c'est compliqué de faire autrement.
S'il y avait deux, trois objets, Diane, sur lesquels vous voulez mettre l'accent.
Alors, au début de l'exposition, j'étais assez fascinée par le fauteuil d'enfant du jeune roi devenu roi, donc à 9 ans. Fauteuil quasi intact en bois incrusté d'ébène et d'ivoire. Et puis, On ne l'avait jamais vu en France. Il y a la grande statue noire et dorée de l'un des gardiens de la tombe de Toutankhamon à l'effigie du pharaon, ses yeux cernés de kohl. J'ai rencontré également Dominique Farou, le conseiller scientifique de l'exposition.
Ces deux grands gardiens sont là pour empêcher toute entité mauvaise d'entrer en fait dans cette salle où se trouve le corps du roi.
Vous voyez, cette statue est recouverte d'or en partie. L'or, c'est le symbole du soleil, l'or qui protège le mort dans l'au-delà. Puis, Fabienne, je suis restée bouche bée devant toutes les statuettes recouvertes d'or. Et puis évidemment, très fascinante aussi, les bandelettes en or de la momie avec ses hiéroglyphes incrustés de lapis lazuli, de verre, d'or et de faïence. Je ne vous parle pas des bijoux, hein. Évidemment, du même acabit, là on reste rêveuse.
J'entends toutes ces merveilles dans l'écrin de la grande halle de la Villette. Même question qu'à Martin Fenot, on se demande pourquoi sortir des objets aussi précieux d'Égypte avec tous les risques que cela peut faire courir justement à ce trésor. On va écouter la réponse du ministre des Antiquités égyptien qui était cette semaine à Paris.
Cette collection va faire le tour du monde pour promouvoir l'Égypte et donner goût et envie aux touristes d'aller en masse en Égypte. Tous les Français que je rencontrais sont tous des vrais égyptophiles depuis l'école primaire. Et c'est ce genre d'exposition qui va encourager les touristes français à retourner en masse et grand nombre pour visiter les musées égyptiens et les sites archéologiques et découvrir nos dernières trouvailles et découvertes archéologiques. Découvrir les merveilles de la vallée du Nil.
Voilà, donner envie aux touristes de revenir vers l'Égypte.
Mais ils reviennent.
Ils reviennent et c'est ça l'idée de leur faire découvrir aussi d'ici quelques années le nouveau musée égyptien
oui,
au Caire.
Oui, c'est ce que m'a confié également le ministre des Antiquités égyptiennes, Khaled El Enani, qu'on vient d'entendre. Effectivement, ce trésor de Toutankhamon va vraiment revenir en Égypte et être exposé dans ce tout nouveau musée du Caire qui
dont vous nous avez déjà parlé dans Absolument, qui sera devant les pyramides de Gizeh.
Qui sera face aux pyramides de Gizeh.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à nous faire découvrir en Égypte, dans le sol égyptien?
Ah oui, alors, mais c'est infini. C'est-à-dire, vraiment, j'ai posé la question au ministre. Il va encore annoncer, là, dans les semaines qui viennent, trois nouvelles découvertes de tombes, dont une à Louxor, dans la vallée des Rois, là où a été retrouvé le trésor du Toutankhamon. Alors, je lui ai demandé si ça serait une découverte aussi extraordinaire. Il m'a dit... Sans doute pas, mais il ne désespère pas un jour qu'il y aura peut-être une découverte semblable, aussi forte que celle du trésor de Toutankhamon.
Donc on aime bien entretenir aussi le mythe.
Ça,
quand
c'est
même,
certain. Oui, l'Égypte a tout intérêt à le faire, évidemment. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir, dont évidemment le tombeau de Néfertiti. On ne sait toujours pas où il est. Et évidemment, les archéologues sont dessus.
Merci beaucoup, Diane Chinouda. Et on le rappelle, cette exposition Toutankhamon, c'est à découvrir à Paris jusqu'au 15 septembre à la Grande Halle de la Villette.
Et oui, après, on ne reverra plus ces trésors. Il faudra aller en Égypte.
Merci beaucoup, Diane Chinouda. À suivre, la justice aussi en première ligne face aux gilets jaunes. Salomé Legrand a assisté aux comparutions immédiates qui ont suivi les violences de la semaine dernière. Deux fois plus de magistrats mobilisés au palais de justice de Paris.
Il est 13h17, Tout Terrain se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle, et avec ce 19e samedi de manifestation des Gilets jaunes.
Et vous le suivez sur l'antenne depuis ce matin, tout est mis en œuvre par les autorités pour éviter de revivre les scènes de violence qui ont marqué l'acte 18, mobilisation maximale des militaires de l'opération Sentinelle, 6000 membres des forces de l'ordre mobilisés aussi, mais depuis 4 mois, il y a la justice aussi en première ligne et le tribunal correctionnel de Paris qui tombe souvent à plein régime chaque lundi au lendemain des manifestations pour juger les violences du week-end. Bonjour Salomé Legrand.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Du service police-justice d'Europe 1, c'est vous qui avez donc suivi les dernières comparutions immédiates lundi dernier. Ça veut dire quoi déjà, comparution immédiate?
Eh bien c'est une forme de procès rapide directement à l'issue de la garde à vue. Quand le parquet décide qu'on a assez d'éléments et pas besoin d'enquêter plus, on juge les gens directement. Donc ceux qui sont interpellés le samedi, eh bien on les juge le lundi. C'est un droit pour le prévenu de refuser quand même d'être jugé tout de suite et de demander un délai pour préparer sa défense. Il y a quand même un risque, notamment pour les faits les plus graves, par exemple de violence, c'est d'être placé en détention provisoire, ça veut dire en prison, en attendant la nouvelle audience. Donc on peut préparer son procès, mais du coup on va le préparer en prison. C'est donc un risque à bien soupeser avec son avocat.
Alors comment le tribunal de Paris s'organise pour faire face à cette montée en charge depuis 4 mois avec ces manifestations à répétition des Gilets jaunes ?
Eh bien quand il y a des gardes à vue comme ça qu'on pourrait qualifier de massives, il y a d'abord une organisation spatiale, c'est-à-dire des espaces dans les commissariats qui sont dédiés. Il y a même eu le week-end dernier, on a réouvert le dépôt de l'ancien palais de justice. Vous savez qu'il a déménagé dans le 17e arrondissement. Le tribunal maintenant est au Batignolles. Voilà. Et on a rouvert le dépôt du palais qui est sur l'île de la Cité pour pouvoir, pardon de l'expression, stocker les gardés à vue avant de les présenter devant un juge. Ils ont également, du coup, la justice, évidemment, dédié plus de magistrats. Lundi, normalement, il y a globalement 2 chambres correctionnelles qui jugent les comparutions immédiates, y compris pour les gens du week-end qui ont commis des vols qui n'ont rien à voir, par exemple, avec les gilets jaunes et qu'on doit juger. Mais un lundi post-gilets jaunes comme celui de la semaine dernière, eh bien, il y avait 2 chambres en plus.
Alors, l'acte 18, on l'a vécu sur cette antenne la semaine dernière, a été particulièrement violent. Il y a eu beaucoup d'interpellations. Qu'est-ce qui vous a marqué, justement, dans ceux qui sont passés devant les juges cette semaine ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que souvent, les comparutions immédiates, ce n'est pas les plus gros poissons. Parce qu'en fait, ceux qui ont les profils les plus intéressants, on va se donner le temps d'enquêter dessus, soit le temps supplémentaire, c'est-à-dire déjà 24 heures de garde à vue prolongée, donc jugée à partir plutôt du mardi. Mais surtout, on va même, pour certains, ouvrir des instructions pour avoir plus de preuves, plus d'éléments. Si on pense tenir à un casseur ou un black bloc, on va essayer de retracer son parcours sur toute la journée, l'identifier sur d'autres images, peut-être même sur d'autres week-ends en remontant la vidéosurveillance. Et donc, pour ne pas le juger pour un vol simple ou une dégradation d'une vitrine ou d'une banque, mais pour une somme de faits plus importante. Du coup, eh bien, lundi, c'était plutôt tout ce qui se passe en marge de ces événements, c'est-à-dire des infractions réelles, en tout cas, que l'on reproche.
Vous m'avez dit des gens, par exemple, qui récupèrent des vêtements sur la chaussée.
Il y avait beaucoup de gens jugés pour recel. Ça veut dire, alors, ils disent les avoir récupérés sur la chaussée. Peut-être qu'ils les ont pris directement dans les magasins, mais sans être nécessairement ceux qui étaient équipés de marteaux, de barres de fer pour casser les vitrines, plutôt des profils de gens qui n'avaient d'abord pas de casier judiciaire. Pour 90% des gens qui, dont j'ai vu la comparution immédiate lundi, ils n'avaient aucune mention au casier judiciaire ou bien consommation de stupéfiants une fois il y a 2 ans ou des choses qui ne sont pas en lien avec dégradation, vol, violence. On avait par exemple Raphaël, 32 ans, 2 enfants, apiculteurs venus du Loiret, avec qui on a retrouvé une veste Morgane de femme et un jogging Nike dans son sac à dos. Voilà, à 18h50, rue de la Boétie.
Bon, il l'explique comment ?
Il a été jugé. Ah bah lui, il dit qu'il les a ramassés. Alors il explique que bah voilà, il pensait que si c'était pas lui, ce serait quelqu'un d'autre. Il était un peu piteux. Il a expliqué que bah effectivement, quand il s'est retrouvé 48 heures dans une cellule de garde à vue, ça lui a fait tout drôle pour ça et qu'il s'est rendu compte à quel point c'était idiot. Et la présidente aussi s'est un peu moquée de lui en le taclant et en lui disant que c'était bien un grand moment de solitude. Il y en a aussi qui étaient jugés pour des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, mais là encore, pas forcément ce qu'on a vu de déferlement de violence. Il y avait Clément d'Angers, né en 96, qui a été interpellé après avoir jeté une bouteille de bière en direction des CRS. Il avait quelques canettes vides aussi dans son sac. Est-ce que c'était des munitions pour
comme on dit, des
attaquer des armes par destination? Est-ce qu'il comptait les jeter toutes une à une? Bon, voilà, lui, il avait une explication un peu vaseuse sur le fait qu'il les avait bu dans le train.
Vous m'avez dit qu'en temps normal, on ne l'aurait pas forcément retrouvé devant la justice.
Ah ben non, il y a de fortes chances que quelqu'un qui jette une canette en direction des forces de l'ordre, non pas que ce soit malin et voilà, c'est répréhensible par la loi, mais c'est rarement poursuivi et puis encore moins devant un tribunal. Il y a toute une gamme avant de rappel à la loi, de possibilités de poursuites diverses. Donc la probabilité que quelqu'un comme lui se retrouve devant un tribunal pour ça, c'est avant tout dû au contexte. Et puis d'ailleurs, lui, il a dit à la fin « Je m'excuse d'avoir embêté votre tribunal avec un truc aussi nul ». Il était piteux.
Ça témoigne de quoi le fait qu'il se retrouve justement devant le tribunal ce lundi ? Vous m'avez dit, vous avez été marqué par la sévérité des réquisitions.
Voilà, ça c'était un virage qu'on a pu constater de semaine en semaine et particulièrement lundi, c'est qu'à chaque fois, alors c'était propre au procureur dans cette salle-là, j'ai pas assisté aux 4 chambres puisque je pouvais pas me démultiplier, mais c'était quand même un message général de sévérité dans les réquisitions. À chaque fois, il y avait quasiment de la prison ferme requise pour des gens qui n'ont pas de casier, c'est inédit. Pour des faits On avait aussi un jeune homme de 19 ans, totalement dépressif, soigné depuis 6 ans, qui avait donné un coup de pied sur les CRS et qui avait compris après lors de la garde à vue qu'il avait fait une crise d'angoisse parce qu'il n'avait pas ses médicaments et qu'il a ce traitement lourd. Il tremblotait d'ailleurs à la barre parce qu'il n'avait pas eu ses médicaments. Et les CRS l'avaient excusé. Il avait fait des doigts d'honneur, il y avait une histoire de « ils m'ont mal regardé ». Voilà, tout ça était globalement assez minable. Et pour autant, il y a eu des réquisitions assez fermes et lourdes contre lui parce qu'à chaque fois, le procureur redonnait le contexte, 60 boutiques détruites. Il disait « nos beaux Champs-Élysées saccagés ». Pour les gens qui étaient avec du recel, il disait simplement « c'est profiter d'une situation dramatique et gravissime, c'est cautionner les pillages, se servir là comme ça d'éléments, de vêtements volés qui traînent dans la rue, si tant est qu'on les croit, qu'ils les ont bien ramassés dans la rue, c'est cautionner la mise à sac de nos beaux Champs-Élysées ». Et du coup, les avocats derrière dénonçaient la dichotomie entre les profils à chaque fois un peu petits bras qu'on avait dans le box et la réalité des saccages et les images très choquantes que les Français ont pu voir à la télévision. Ils ont dit « on va vous demander de faire des exemples toute la journée ». Et maître Raphaël Kempf, l'un de ses avocats, vraiment été sonné et choqué de la sévérité des réquisitions.
Ce que je constate, c'est qu'en audience, le procureur de la République demande de la prison. Point barre. Alors j'ai vu par exemple un jeune travailleur, père de famille, chauffeur poids lourd en CDD et bientôt en CDI, je l'espère. On lui reproche d'avoir tenté d'incendier une poubelle avec un briquet, qui demande le report de son procès pour le préparer et à l'égard de qui le procureur de la République demande à ce qu'il soit envoyé en prison pendant un mois ou un mois et demi. C'est pas un fait qui justifie de la prison. Et on a vu d'autres dossiers où des personnes qui avaient pu être interpellées avec des cailloux dans les poches, c'est-à-dire sans même commettre des actes de violence, se voir requérir de la peine de prison ferme avec mandat de dépôt pour des personnes qui n'ont aucun antécédent, dont le casier judiciaire est vierge. Et encore une fois, ça m'apparaît disproportionné, comme si seule la prison pouvait assouvir un désir de répression, voire même un désir de vengeance de la part de responsables politiques et de la part de l'opinion publique. Et évidemment, on ne peut que le regretter.
Bon, on entend, l'avocat est dans son rôle, il défend évidemment ses clients. Vous m'avez dit des réquisitions très fermes, mais au final, quel jugement ?
Eh bien, finalement, des peines entre 3 et 6 mois de prison avec sursis, parfois des mises à l'épreuve, c'est-à-dire des obligations de soins, etc., pour ceux qui avaient des problèmes psy derrière. Et puis aussi, à chaque fois, des interdictions de venir à Paris pendant un an, histoire qu'on ne les revoie pas sur les prochaines manifestations.
Donc il y avait la volonté de marquer les esprits aussi, voilà. Pour faire comprendre qu'il ne fallait pas recommencer.
Voilà, et puis il y a quand même aussi ce jeune homme de Caen qui a pris 4 mois de prison avec mandat de dépôt, donc il a dormi en prison dès le soir même, alors que ce qu'on lui reprochait, c'était d'avoir eu du bitume et du marbre dans les poches. Bien sûr, c'est des projectiles, et c'était vraisemblablement pour les jeter sur les policiers, même s'il a expliqué que c'était pour ramener un souvenir de la manif. En attendant, 4 mois de prison, un mandat de dépôt pour un jeune homme qui avait un casier vierge, ça reste lourd.
Alors Salomé, on va le rappeler, il y aura d'ailleurs d'autres audiences, cette fois pour des faits plus graves quand les enquêtes auront eu lieu. Dernière question, comment on travaille ? Vous utilisez énormément Twitter et vous nous faites vivre justement l'audience avec ce qu'on appelle des live tweets. Ça veut dire que vous avez le droit d'avoir votre smartphone à l'audience ?
Alors oui, c'est une exception parce que normalement on n'a pas le droit d'avoir rien du tout qui permettrait d'enregistrer les audiences. Donc les smartphones, les ordinateurs, etc. sont interdits. Sauf pour les journalistes et les membres de la presse judiciaire. Parfois, il faut un petit peu négocier avec les présidents d'audience et les huissiers, mais souvent, on y arrive. Et c'est intéressant parce que l'idée, c'est de faire rentrer les gens dans la salle d'audience avec nous. Moi, j'essaye de raconter vraiment presque minute par minute ce qui se passe, de donner les citations, de donner les éléments d'ambiance. Quand une phrase paraît ridicule et fait un peu sourire dans le public, quand c'est clairement un tacle grinçant, enfin, de contextualiser et de raconter ce théâtre qu'est la justice à chaque fois pour que le plus de gens comprennent. Ce qui est intéressant avec les live tweets, c'est que les gens peuvent poser des questions. J'essaye d'y répondre, même si ça demande un peu de concentration, de suivre le procès. En plus,
parce qu'il faut quand même raconter aussi l'audience sur l'antenne d'Europe 1.
À la radio, donc j'ai mon cahier sur mes genoux d'un côté, mon téléphone portable de l'autre. En gros, dès que je vois des citations dont je suis sûre qu'elles doivent figurer dans mon papier radio, je les note sur mon cahier et ensuite je les reproduis en tweet. Et sinon, j'écris les tweets au fur et à mesure, et ça m'arrive régulièrement juste avant mon direct, de remonter le live tweet pour aller chercher la petite formule que j'avais notée ou la petite description de l'instant. Bon, faut jongler un peu. C'est intéressant aussi parce que comme il y a aussi des avocats, des magistrats sur Twitter, quand on a des questions de droit ou qu'on se demande si c'est un peu inédit, eh ben, ils peuvent apporter leur éclairage. Donc c'est un peu collaboratif comme traitement de l'information, mais c'est très intéressant.
Et on va rappeler votre compte Twitter.
Alors, @Salomé_L_, c'est le tiret du bas, et L.
Merci beaucoup Salomé Legrand, et on voit que les deux sont complémentaires, de vous suivre sur Twitter et bien évidemment aussi en live, en direct à la radio, avec vos papiers dans les différentes éditions. Merci Salomé.
Merci Fabienne, bon week-end.
Europe 1.
À suivre, c'est une maladie qui fait peur, elle touche plus de 600 000 personnes en France, la schizophrénie. Et dans un instant, vous allez entendre un témoignage vraiment exceptionnel, Florent, 38 ans. En l'écoutant, vous allez mieux comprendre pourquoi on peut vivre normalement avec cette maladie.
h 31, on vous retrouve Fabienne Lemoelle pour la suite de Tout Terrain, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte.
Et dans Tout Terrain maintenant, on va revenir sur cette semaine consacrée à la schizophrénie, une maladie qui touche plus de 600 000 personnes en France et qui fait peur. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour.
Spécialiste santé d'Europe 1. J'ai voulu revenir avec vous sur ce témoignage exceptionnel que l'on a pu entendre sur l'antenne mercredi matin dans la matinale de Nikos Aliagas. Le témoignage de Florent. Je dis exceptionnel parce que Florent est schizophrène et franchement Mélanie, quand on entend son témoignage, ça tranche singulièrement avec l'image que l'on se fait de cette maladie.
Et oui, Florent Babillotte, il a 38 ans aujourd'hui. C'est un grand monsieur de plus d'1m90 qui a toujours le sourire et surtout, je peux vous dire qu'il est totalement normal. Peut-être juste un peu plus joyeux que la moyenne des gens. Peut-être parce que justement, il revient de loin. Lui, cette maladie mentale, cette psychose qu'est la schizophrénie, elle a débarqué brutalement dans sa vie l'année de ses 13 ans. Et elle a fait éruption dans sa vie de façon brutale. En fait, sa première bouffée délirante a eu lieu dans un bus.
Et là, au fond du bus, il y a une personne que je vois qui rigole avec son copain. Sauf que moi, comme je suis en crise, j'interprète cette personne-là et son sourire comme quelque chose d'agressif. Et après, il y a une voix qui fait dire à cette fille avec une frange, je me souviens très bien, quel con ce type. Et le problème, c'est qu'au bout de 5 minutes, c'est plus juste elle qui parle, en fait. C'est comme un grouillonnement. Et j'ai l'impression que tout le bus et qu'il y a plein de voix, en fait, qui se mélangent, des voix qui résonnent dans ma tête avec un son très grave, hein. Donc je prends peur et je quitte le bus précipitamment alors que je suis pas du tout arrivé, en fait, au collège, quoi. C'est la première crise de bouffée délirante. Mais ces crises vont revenir. Alors au début, ça va être une ou deux fois dans l'année. Et puis les années passant, ça va être plusieurs fois. Et puis le problème, c'est que moi, je vais les cacher, ces crises-là. Mais comme je n'ai pas de passage violent ou d'insultes ou de ce genre de choses, bah, mes parents, ils disent juste que je suis turbulent, que je m'enferme beaucoup dans ma chambre. Parce que, en fait, quand j'étais en crise, je m'enfermais dans ma chambre en prétextant jouer aux jeux vidéo, ce qui n'était pas vrai du tout, hein. Je pouvais rester prostré chez moi, en fait, à attendre que le temps y passe et surtout attendre que les voix, elles passent. Et donc du coup, c'est vrai que ça va être très difficile pour mettre un diagnostic sur ma maladie vu que je l'ai masqué pendant de nombreuses années en fait. Jusqu'au jour où je vais avoir une crise qui va se voir et je vais me mettre en plein milieu de la route avant que l'ambulance arrive, croyant en fait que j'ai des super pouvoirs et que les voitures vont me transpercer finalement sans rien me faire puisque j'ai des super pouvoirs. Sauf que ma maman va être consciente de la chose et va me projeter par terre parce qu'il y a une voiture qui va arriver et elle m'a sauvé la vie ce jour-là et c'est bizarre parce que moi je m'en souviens pas.
C'est vraiment, je dois dire, assez sidérant quand on entend Florent parler aussi simplement, posément de sa maladie, de ses voix, parce que c'est ce qui revient souvent quand on parle de la schizophrénie, ses voix dans la tête, qui évidemment personne n'entend à l'extérieur. Comment on explique qu'il puisse vous en parler comme ça, dans le micro? Il est face à vous, hein, vous m'avez dit, assez impressionnant, et il en parle très calmement.
Ben oui, parce qu'en fait, Florent, il prend un traitement tous les jours, depuis des années. C'est un médicament, vous savez, qu'on appelle les antipsychotiques, les neuroleptiques parfois aussi, sont des médicaments qui agissent directement sur le cerveau, et grâce à eux, en fait, il n'a plus aucune hallucination. Ça fait 14 ans qu'il n'a pas fait la moindre crise. Du coup, depuis des années, il vit comme vous et moi. Alors, il sait qu'il ne sera jamais complètement guéri, hein, mais il est ce qu'on appelle stabilisé. Et ça, même si on l'ignore, en fait, beaucoup de patients atteints de schizophrénie parviennent à stabiliser donc leur maladie, comme Florent.
Et d'ailleurs, c'est ça son combat au quotidien, c'est montrer qu'il est, comme tout le monde, comme vous me le disiez au début, normal.
Eh oui, alors aujourd'hui, Florent, c'est un peu devenu ce qu'on appelle un patient expert. Il anime des conférences où il témoigne de cette réalité, justement, du fait qu'on peut être atteint de schizophrénie.
Pour apaiser les peurs qu'engendre cette maladie dans la société.
Exactement, il témoigne du fait qu'il a un travail, qu'il a une vie sociale et amoureuse, qu'il fait beaucoup de sport. Il est fan de basket, Florent, il en fait tous les jours quasiment. Et puis, il est aussi un peu artiste, il fait des concerts de slam, il a aussi écrit deux livres. L'un d'eux s'appelle « Obscure clarté » aux éditions Laïus. Il y raconte justement son histoire avec cette maladie mentale. Et pourtant, au départ, c'était vraiment pas gagné. Hein. Quand le diagnostic est tombé, il avait 24 ans et il a dû arrêter brutalement ses études de droit.
Parce que moi, quand le diagnostic est tombé, pour moi, au tout début, en tout cas, la vie, elle s'arrêtait. Pour moi, la schizophrénie, c'était on était débile mental, ou alors on était meurtrier, abonné à la rubrique Fait divers, en fait. Moi, j'ai commencé à retrouver l'espoir et la lumière quand ma perception sur la maladie, elle a changé. On n'est pas des gens dangereux, bien au contraire. Ça arrive qu'il y ait des gens qui deviennent violents, mais c'est une part très, très infime, en fait. Et il ne faut pas faire de cette part-là une majorité, parce que ce n'est pas le cas du tout, en fait. Bah, moi, je suis une personne atteinte de schizophrénie, et donc maintenant, je suis devenu aide-soignant, et j'ai même travaillé dans l'unité où j'avais été interné, donc c'est une belle victoire. Mais si on m'avait dit ça il y a une dizaine d'années, j'aurais jamais cru, quoi. Moi, j'espère qu'un jour, on pourra dire, même à un entretien d'embauche, je suis atteint de schizophrénie, mais aussi, je peux vous apporter cette chose-là. Je suis très bon dans tel domaine. Voilà, je peux vous apporter plein de choses et sans que ce soit vu comme un handicap, en fait.
Voilà, Florent est donc aide-soignant, il nous le disait aujourd'hui, dans un EHPAD, d'après ce que vous m'avez dit. Mélanie, vous êtes spécialiste santé, vous avez l'habitude de travailler sur ces questions, mais c'était la première fois que vous faisiez une telle rencontre.
Ah oui, vraiment, un patient schizophrène. Alors j'avais entendu parler de cette maladie, évidemment, je savais que ça existait, la stabilisation, mais à ce point-là, rencontrer quelqu'un d'aussi normal, c'était vraiment, vraiment intéressant, puisque c'est vraiment pas l'idée, moi-même, journaliste santé, que j'avais de cette maladie.
Alors, Florent travaille, fait des conférences, on vient de l'entendre, il vit comme les autres, mais malheureusement, ce n'est le cas que pour la moitié des malades, parce que très souvent, ces traitements, ça veut dire des effets secondaires, comme vous l'a expliqué le docteur Marine Rimbaud, elle est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris.
On a différentes molécules, dont certaines qui sont très anciennes et qui font des symptômes un peu type parkinsonien, en fait, avec des tremblements, des contractures. Il y a aussi la prise de poids. Ils arrêtent souvent les médicaments à cause justement de cette prise de poids, de la sédation ou des troubles érectiles. Enfin, là, de plus en plus, on a des nouvelles molécules qui, heureusement, donnent moins faim, qui ont moins d'effets secondaires. Mais il y a encore beaucoup à faire, je pense, dans la recherche.
Le problème aussi, Mélanie, c'est le manque de moyens.
Ah oui, alors des progrès à faire dans ce secteur, dans la psychiatrie. Donc pour la schizophrénie, il y en aurait beaucoup. Ça serait par exemple trouver une solution aux 20% de malades qui sont résistants au traitement. Il faudrait aussi davantage de lits disponibles en psychiatrie, plus de médecins, développer les équipes mobiles. Ça aussi, ça serait intéressant, c'est-à-dire des soignants qui iraient suivre ces patients une fois rentrés chez eux, après l'internement justement, pour qu'ils rentrent chez eux, vérifier avec eux qu'ils prennent bien leurs médicaments. Il y a des équipes mobiles, ça se développe, mais il n'y en a pas encore assez. Mais surtout, donc, pour tout ça, il faudrait plus de moyens et en psychiatrie. Malheureusement, on en manque cruellement depuis des années. Agnès Buzyn a annoncé en janvier dernier 40 millions d'euros supplémentaires pour le secteur, mais pour les soignants, c'est encore insuffisant. Ils sont sceptiques, hein, parce qu'ils savent pas encore où seront affectés concrètement ces financements.
Merci beaucoup Mélanie Gomez de nous avoir éclairé sur cette maladie, on le disait, qui touche tout de même 600 000 personnes en France, qui continue à faire peur, mais dont on voit que finalement, ce qui fait souvent la une des faits divers n'a rien à voir avec le vrai quotidien de ces malades.
Europe 1.
Plus de 1000 dauphins retrouvés morts depuis le début de l'année sur la côte atlantique, victimes de filets de pêcheurs. On part à La Rochelle dans un instant avec Justin Morin qui a essayé de comprendre les causes de cette hécatombe.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Et vous écoutez Tout Terrain jusqu'à 14h sur Europe 1. On prend le temps de revenir sur les événements marquants de la semaine avec vous, Fabienne Lemoyle, et avec les reporters d'Europe 1.
Et on poursuit Tout Terrain avec un triste record dont nous parlait Nikos Aliagas dans Europe 1 va plus loin hier matin.
Plus de 1100 carcasses de dauphins morts ont été retrouvées échouées depuis le début de l'année sur les plages de l'Atlantique. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, pour le savoir, je vous emmène à l'observatoire Pélagis. C'est à La Rochelle. En ce moment, les scientifiques de ce laboratoire lié au CNRS consacrent la majeure partie de leur temps à ces animaux échoués. Mmh. 450 rien que ces deux dernières semaines.
Bonjour Justin Morin.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Alors, c'est vous qui avez enquêté sur cette hécatombe et vous avez pu en prendre toute la mesure en assistant à une séance très particulière, une séance d'autopsie.
Oui, effectivement, je suis allé à La Rochelle, à l'observatoire Pélagis. En fait, c'est un centre scientifique lié au CNRS. Ce laboratoire centralise, comptabilise toutes les carcasses de dauphins retrouvées sur le littoral atlantique. Et c'est ici que sont amenées les carcasses les moins abîmées, on va dire, pour pouvoir être autopsiées, pour confirmer ou pas si elles sont issues de captures accidentelles de pêche.
Comment ça se passe alors ? Parce que quand on dit autopsie, on pense qu'on a dépecé l'animal. Mais en fait, c'est pas ça.
Alors, moi, j'ai pas assisté vraiment au dépeçage de l'animal parce qu'en fait, donc j'étais avec deux scientifiques. Ils m'ont sorti un dauphin de la chambre froide dans cette salle d'autopsie. Ils l'ont déposé sur une grande table en métal et en fait, très rapidement, il suffit d'un examen rapide pour constater les marques des filets de pêche, les marques.
Donc à l'œil nu.
À l'œil nu, voilà, exactement. Et c'est exactement ce que m'a raconté Olivier Van Canet, qui est un des scientifiques de l'observatoire pélagiste. On va l'écouter.
On est devant un dauphin commun qui a été retrouvé sur une plage la semaine dernière en Gironde. Et on voit quelques traces de capture accidentelles, dont une assez évidente, hein, qui est la section de la nageoire de la queue, coupée au moment de l'opération de démaillage. On sait que c'est quelque chose qui est pratiqué sur les bateaux, hein, c'est pour éviter d'abîmer les filets. Voilà, donc là, sans examen très approfondi, on peut assez facilement orienter le diagnostic de la mort vers la capture accidentelle. Quoi.
Voilà, et 90% des carcasses examinées présentent en fait les mêmes preuves de pêche accidentelle dans le golfe de Gascogne.
Quand vous dites pêche accidentelle, soyons clairs, c'est parce que bien évidemment les pêcheurs n'ont pas l'intention de prendre ces cétacés dans leur filet. Des cétacés qui sont ces dauphins, une espèce protégée.
Voilà, une espèce protégée. Donc normalement, les pêcheurs n'ont pas le droit de pêcher ces dauphins. Et ils le savent très bien d'ailleurs. En fait, le problème, c'est que si c'est accidentel, là seulement, ils ne peuvent pas être poursuivis pour avoir pêché ces dauphins-là. Et en fait, c'est ce qui se passe. Ce sont que des pêches accidentelles parce qu'en fait, ce phénomène, il se produit entre janvier et mars. Tous les ans, il y a ces échouages de dauphins sur le littoral atlantique.
Pourquoi cette période ?
Eh bien, parce qu'en fait, c'est à cette période-là que il y a des petits poissons qui se reproduisent dans des zones bien précises. Et ces petits poissons, ils sont chassés par les dauphins qui se nourrissent. Ils sont aussi chassés par les merlus et les bars qui sont bien sûr des poissons très prisés des pêcheurs. Et donc, tous ces animaux, les dauphins, les bars, les merlus, se retrouvent aux mêmes endroits et donc prisonniers des mêmes filets de pêche. En fait, c'est ça le problème. Mais ce qui inquiète surtout aujourd'hui, c'est que ce phénomène s'accentue.
Depuis 4 ans, on bat les records d'une année sur l'autre. Donc aujourd'hui, on va dire que la situation est très préoccupante vu les nombres que nous avons sur nos côtes.
Et pourquoi ce phénomène est de plus en plus important ?
Alors là aussi, c'est le problème, c'est que scientifiquement, on n'a pas de preuves tangibles. C'est ce que m'expliquaient ces scientifiques. Il y a des pistes, il y a des hypothèses. On pense notamment au mouvement des animaux, certainement. Il y a aussi certainement des pratiques de pêche qui évoluent, l'effort de pêche qui évolue. Mais on n'a pas de preuves scientifiques tangibles pour expliquer pourquoi ça augmente. Et justement, en fait, les scientifiques, ils aimeraient bien, les observateurs, ils aimeraient bien pouvoir monter plus souvent sur ces bateaux de pêche pour observer, pour prendre des mesures, pour voir où c'est précisément, bref, pour voilà, mener une étude scientifique.
Vous dites qu'ils aimeraient, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'accès justement à ces bateaux ?
Alors, ça arrive qu'ils montent sur ces bateaux, mais pas assez. Et en fait, ils le regrettent parce que aujourd'hui, c'est au bon vouloir des capitaines de pêche et tous, aujourd'hui, ne veulent pas forcément faire monter des observateurs sur les bateaux. Et ça, c'est un des représentants des pêcheurs qui me le disait, donc qui est assez honnête, parce qu'ils ont peur de se sentir stigmatisés sur leur pratique.
Parce que justement, ceux qui sont mis en accusation, évidemment, ce sont les pêcheurs. Des ONG se sont emparés du dossier et accusent ouvertement ces pêcheurs de massacrer les dauphins. Comment ils le vivent, justement, ces accusations ?
Ils le vivent très mal, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés. Ces ONG, et notamment c'est l'ONG Sea Shepherd, part en mer pour aller derrière les pêcheurs et filmer, prendre des photos du moment où les filets remontent avec potentiellement un dauphin prisonnier de ces filets-là. Ces vidéos sont mises sur Internet, elles sont regardées, partagées. Et aujourd'hui, l'opinion publique s'apprend, certainement parce que l'opinion publique y est plus sensible.
Beaucoup plus sensible.
Voilà, à ces dossiers écologiques. Et donc, ces vidéos, elles font du bruit. Et donc, les pêcheurs se sentent profondément stigmatisés. Il y a beaucoup d'insultes aussi qui tournent sur les réseaux sociaux. On les prend vraiment pour des pêcheurs qui font attention à rien, qui de toute façon se soucient pas de l'environnement et limite découpent les dauphins pour les sortir des filets sans se poser de questions. Non, c'est ce que m'expliquait José Jounot, c'est le président du comité régional des pêches et des élevages marins Pays de Loire. Et ils rejettent aussi une accusation, on les accuse d'être des pêcheurs industriels. 80% de la flotte du golfe de Gascogne, ce sont des bateaux de moins de 12 mètres avec des petits équipages. Donc ils considèrent que ça, c'est pas une pêche industrielle. Donc ils rejettent cette accusation-là. Mais le plus dur, et vous allez l'entendre, c'est vraiment qu'ils se sentent blessés dans sa profession et dans sa pratique de pêcheur.
Faut arrêter de croire que c'est la fête du scalp quand on chope un mammifère. Ça fait rire personne, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est tellement proche de l'humain. Si on pouvait trouver le moyen, justement, d'éviter tout ce qui capture, vous pouvez pas savoir le bien que ça nous ferait, quoi. Maintenant, je pense que dans le golfe de Gascogne aussi, on a beaucoup de flottilles étrangères. L'idéal, ça serait d'avoir un état des lieux aussi, puis des observateurs sur ces navires.
Voilà, on comprend mieux la danse du scalp. Ça permet de prendre la mesure, justement, de ce que ressentent ces pêcheurs.
Voilà,
hein.
Quand je vous disais, ils se sentent accusés d'être des sauvages et de faire n'importe quoi sur les bateaux, que ce soit vraiment, on coupe les nageoires pour enlever les dauphins. Voilà, c'est ça, ils se sentent blessés.
Alors, on entend ce pêcheur qui aimerait avoir une solution miracle. Est-ce qu'elle existe, cette solution ?
On aimerait bien, mais pour l'instant, non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le chiffre augmente. Non, il n'y a pas de solution miracle. Mais
d'autant plus que vous nous l'avez bien expliqué, on a du mal à comprendre aussi
exactement
pourquoi ce chiffre augmente. Donc,
exactement,
pour trouver une solution, ce n'est pas évident.
Alors que parallèlement, il y a des solutions qui sont mises en place parce que c'est quand même un problème dont les pêcheurs sont conscients. Il y a des réunions, il y a eu des comités qui ont été mis en place pour chercher des solutions. Il y en a depuis cette année. Tous les navires français, ils sont équipés d'un boîtier électronique, ça s'appelle un pinger. Et en fait, ce petit boîtier, il est fixé au filet de pêche et il émet des ultrasons. et c'est censé éloigner les dauphins de ces filets. Alors d'après le laboratoire Pelagis, dont on a entendu les scientifiques au début, ça marche plutôt bien, ça réduirait de 60% les prises accidentelles, sauf qu'il y a des problèmes, les batteries s'épuisent très vite, donc quand on a des filets qui restent longtemps dans l'eau, au bout d'un moment ça émet plus forcément les ultrasons et donc les dauphins sont prisonniers. Et aussi, ces boîtiers ne sont pas adaptés aux filets maillants. Alors c'est un peu technique, c'est du vocabulaire de pêche, mais les filets maillants, en fait, ce sont de grands filets qui sont mis au fond, qui sont laissés au fond des océans pendant plusieurs jours. Ça fait plusieurs kilomètres, vraiment, c'est des gigantesques filets. Et ça ne marche pas, en fait, sur ces types de filets. Ça marche surtout sur les boîtiers dont je vous parle, ça marche surtout sur les chaluts pélagiques. En fait, ce sont deux bateaux qui traînent un filet. Là-dessus, ça marche très
et
bien.
Et entre ces les deux filets, on récupère justement tout la pêche. Voilà, tout.
Et ça se fait en moyenne profondeur. Ce sont surtout ces bateaux-là qui étaient pointés du doigt dans les captures accidentelles. Avec ces boîtiers-là, ils font moins de captures, mais il en reste encore avec les critiques que je vous dis, notamment les problèmes de charge.
Merci beaucoup Justin Morin. En tout cas, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience d'un côté des autorités publiques avec les ONG qui les mettent sous pression pour éviter stopper cette hécatombe, et puis de l'autre côté, les marins pêcheurs qui sont soucieux aussi de leur image et qui n'ont pas envie effectivement qu'elle soit brouillée par ces dauphins qu'on retrouve échoués sur le rivage. Merci beaucoup Justin.
Merci Fabienne.
Europe 1.
Dans un instant, je vous emmène dans les coulisses de la dernière comédie musicale du Théâtre Marigny à Paris, Guys and Dolls, pour la première fois montée en France.
13h49, vous écoutez Tout Terrain avec Fabienne Lemoyle et c'est la dernière partie de l'émission, Fabienne.
Et on termine Tout Terrain en musique, c'est devenu une tradition. Je vous emmène une nouvelle fois dans les coulisses du Théâtre Marigny avec comme guide Thierry Geffrotin. Fini Podane, place à Guys and Dolls, une comédie musicale qui n'a jamais été jouée en France, mais qui pourtant a fait les beaux jours de Broadway et qui est même devenu un film. Bonjour Thierry Geffrotin.
Bonjour Fabienne.
Bon, déjà, Guys and Dolls, on n'a pas traduit en tout cas.
Non, alors certains s'en sont chargés parce que ça a été un film aussi et c'est devenu Blanche Colombe et Vilain Messieurs. Bon, c'est pas très heureux. C'est surtout très daté.
Ouais, on comprend pourquoi. Il valait mieux garder la version originale. Alors, vous nous dites, il faut absolument voir cette comédie musicale, mais qu'est-ce qu'elle a de plus?
Ah, ce qu'elle a de plus, déjà, on l'a jamais vu en France. Hein, donc
c'est
déjà
une bonne raison.
Oui, c'est déjà une première raison. Guys and Dolls fait partie de ces comédies musicales qui ont triomphé fait à New York et à Londres, hein, et qui ont contribué à faire de Broadway et du West End, l'équivalent londonien de Broadway, donc des lieux de référence. Guy and Dolls fait partie de la légende, de la grande histoire du musical, de la comédie musicale, d'abord évidemment pour sa musique.
I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck, though it beats me all the heck.
Mais on est en quelle année là, Thierry ?
Eh bien, on est en 1950, une forme d'âge d'or de la comédie musicale. Il y a eu plusieurs âges d'or, hein, mais voilà, 1950, Guys and Dolls a été un grand succès critique et populaire, avec 1200 représentations. Ah oui. Il y en aura 120 à Paris, vous voyez. Hein, c'est pas mal quand même, 120 à Paris. 5 Tony Awards en 1951, Guys and Dolls qui a été adapté au cinéma en 1955 par le réalisateur Joseph Mankiewicz, à qui on doit notamment La Comtesse aux pieds nus et Cléopâtre. Vous voyez, c'est quand même un grand réalisateur. On n'a pas dit, tiens, on va faire une comédie musicale au cinéma. Non, non, on a pris un grand réalisateur avec à l'affiche Marlon Brando et Frank Sinatra. Et le film est sorti donc en 1957 avec ce titre improbable pour nous aujourd'hui.
On a bien compris.
60 ans après, Blanche Colombe et Vilain Messieurs.
Alors, qu'est-ce que ça raconte avec un titre pareil?
Il n'y a pas que la musique, en effet. L'histoire nous montre le savoir-faire des Américains dans ce genre de spectacle. C'est-à-dire,
il y a souvent des mauvais garçons, hein,
voilà,
d'ailleurs.
Hein. Oui, c'est un divertissement fort bien ficelé. L'histoire est bâtie sur la confrontation de deux univers. Alors d'un côté, des truands new-yorkais, de l'autre, des missionnaires de Save Our Soul, l'équivalent de l'armée du salut. Hein. L'intrigue se noue à partir d'un pari stupide. Le patron d'un tripot qui met au défi un parieur, le type qui parie sur tout, vous voyez, de séduire l'une des jeunes filles de l'orchestre de la mission en question. Hein. Vous voyez, ce sont des petites, les petits chapeaux comme l'armée du salut. Et de l'emmener dîner à la Havane.
Donc à Cuba.
Voilà, c'est exactement. Le voyage de noces, en quelque sorte. Hein. Je vous rappelle qu'on est en 1950.
Oui, donc on est avant Castro.
Voilà, pari ingagnable ou imperdable en théorie. Mais voilà, les mauvais guys ont du cœur. Les dolls ne sont pas aussi effarouchés que cela. Et l'amour va finir par réunir les contraires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un héros, une héroïne. Hein, voilà.
Il y a un côté West Side Story
voilà,
dans ce que vous nous
racontez. Et derrière, vous avez deux personnages secondaires, mais qui ont un abattage extraordinaire. C'est vraiment eux aussi. À la fin, ils sont ovationnés parce que, je vous le dis, tout ça, c'est
laisser porter par de la musique.
Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight.
C'est donc un grand classique de la comédie musicale américaine. Étonnamment, ça n'avait jamais été monté en France.
Ben oui, c'est, vous savez, c'est un peu les. Je ne vais pas dire qu'on débute dans la comédie musicale en France parce que.
Ça veut dire qu'il y a encore des trésors comme ça qu'on peut trouver, qu'on peut monter.
Oui, il y a eu des trésors. On avait eu 42nd Street au Châtelet quand Jean-Luc Chopin, qui est aujourd'hui le directeur de Marigny, était aux manettes. Alors, c'est vraiment un coup de maître parce qu'il y a un cast formidable. Alors, dans l'histoire, les personnages sont irrésistibles, je vous l'ai dit, à chacun dans son genre. Et les artistes choisis sont vraiment à la hauteur du rôle qu'ils interprètent. Je vous disais, Jean-Luc Chopin, qui a quand même une grande connaissance maintenant de l'univers de Broadway. C'est lui qui avait monté My Fair Lady, La Mélodie du Bonheur, The King and I, Showboat, quand il était directeur du Châtelet. Jean-Luc Chopin a fait appel pour cette production, qui, alors on est à Marigny, c'est-à-dire que ce n'est pas un théâtre public, hein, c'est du privé, 100% privé.
Et où il a fait le pari, lui, comme au Châtelet, voilà, de mettre à l'affiche les comédies musicales.
Les comédies musicales. Il a fait appel à de jeunes artistes qui ont vraiment la comédie musicale dans le sang.
Beaucoup d'entre eux ont déjà fait dans d'autres versions Guys and Dolls. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas une tournée. Je ne fais pas venir une production de Londres. Nous avons sélectionné chaque individu. J'ai choisi une équipe artistique, metteur en scène, chorégraphe, éclairagiste, décorateur. Et nous avons produit à Marigny. Nous sommes un lieu, comme nous avons fait pour Podane. On crée. Donc là, c'est une nouvelle production créée à Marigny de ce grand classique de la comédie musicale américaine.
Voilà, beaucoup de musique, Thierry, justement, le compositeur.
Eh bien, il s'appelle Frank Loesser. Il est décédé en 1969.
Et vous me dites, c'est pas forcément l'un des plus connus par rapport à West Side Story.
Oui, mais alors,
c'est
pas Bernstein pour nous, mais c'est quand même, ça fait partie des grands compositeurs que vous trouvez sur Broadway. Moi, je vous dis, allez-y, parce qu'en plus, vous entendez la musique, il y a des cuivres. Enfin, c'est Broadway, moi, comme je l'aime. C'est-à-dire que c'est très léché, c'est bien fait, les mélodies. On les connaît pas et quand on sort de Marigny, on chante. Pam pam pé la pam.
Mais justement, on entend, c'est l'ouverture, je crois, de Guys and Dolls.
Alors ce thème, vous l'entendez à plusieurs moments dans Guys and Dolls et notamment l'ouverture. Tiens, l'orchestre est dans la fosse et hop, d'un seul coup, la musique surgit.
Merci beaucoup Thierry Geffrotin et on se quitte justement en musique et on rappelle que Guys and Dolls est au Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'au 27 juillet. Et à très bientôt et à très vite dans Tout Terrain. Voilà, Tout Terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Martin Fenot, Diane Chénouda pour nous faire vivre la folie tout en camon, Carole Ferry, Salomé Legrand, Mélanie Gomez, Justin Morin et Thierry Geffrotin. Un grand merci aussi à Capucine Patouillet pour la coordination et à Kevin Ousty pour la réalisation et Rémi Vivien à la console aujourd'hui. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réécouter Tout Terrain en podcast sur europe1.fr avec cette comédie musicale qu'on entend Guys and Dolls. Et demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer.
Et c'était Fabienne Lemoyle. Vous revenez bien sûr pour le journal de 18h. À ce soir, Fabienne.